Dans cette édition, le social est à la une avec, après le commerce, les hôtels et la flottille, des menaces de grève qui planent désormais sur l'OPT aussi, chez la Polynésienne des Eaux et chez TSP. On parlera également des auxiliaires de santé dans les îles, il est temps de moderniser leur statut. Le journal de la rédaction, c'est avec Lucie Rabriot. Bonjour Lucie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Et on commence avec l'ambiance sociale qui se dégrade de jour en jour. C'est désormais à l'OPT qu'on parle de grève.
Oui, vous le savez, un mouvement intersyndical est toujours en cours dans le secteur du commerce. Dans l'hôtellerie, d'intenses discussions ont été menées avec les syndicats ces dernières semaines. La flottille administrative est en grève depuis une semaine, on en reparlera. Et cette fois, c'est à l'OPT que plusieurs préavis ont été déposés. Ils concernent la holding du groupe public et ses principales filiales Farerata au Nati, Vini Distribution et Marara Paiement, des préavis signés par 4 syndicats, mais c'est bien la CSIP qui est au premier rang de la mobilisation, Charles Irénée.
Oui, et le syndicat de Cyril Le Gaillic, qui avait déjà mené une grève à l'OPT voilà un peu plus d'un an, a listé pas moins de 15 demandes. Certaines sont plutôt classiques, on parle de revalorisation de salaire et de primes, d'organisation du groupe, de frais de mission, de harcèlement ou d'entrave au droit syndical, mais au cœur de ce cahier de revendications, on trouve aussi des exigences adressées au gouvernement, appelées à clarifier sa stratégie pour l'OPT, à reconnaître les missions de service public du groupe. La CSIP demande des mesures plus fermes pour lutter contre Starlink qui menace les emplois à l'OPT. Elle demande davantage de transparence sur le dossier Google et surtout davantage de visibilité. Sa proposition, un pacte triennal voire quinquennal avec les pouvoirs publics sur l'activité et le financement de l'office.
Et certaines de ces propositions sont déjà à l'étude depuis longtemps du côté du gouvernement. On se souvient de la prise de parole en juin du ministre des Finances et des Télécoms. Warren Dexter avait estimé qu'il était vain de croire que l'OPT pouvait être rentable. 2,3 milliards de francs de déficit en 2023. Il proposait alors d'accorder au groupe une délégation de services publics pour les activités postales, voire bancaires, ou plutôt globalement pour les activités dans les îles, et tout comme pour Starlink, où le pays a interdit l'utilisation sur place, mais aussi plus récemment, déclaré non conforme ce matériel pour empêcher son importation. Mais le syndicat veut sans doute encore d'autres actions et engagements. Si aucun accord n'est trouvé, le mouvement sera lancé lundi et ça chauffe dans d'autres entreprises aussi. Ce n'est pas le seul mouvement en cours, Charlie.
Non, la CSIP a lancé ces derniers jours au moins deux autres préavis. À la Polynésienne des Eaux d'abord, où le syndicat n'est pas majoritaire mais a reçu le soutien de délégués d'autres centrales. Une réunion y a eu lieu hier, une autre est programmée ce matin. Reste à savoir si la grève sera entre-temps lancée puisque le préavis devait arriver à échéance à minuit ce jeudi matin. L'autre mouvement, il concerne le groupe TSP, Enviropol et Technival et des discussions ont eu lieu dans la matinée et la soirée. D'hier. Les dirigeants semblaient alors pessimistes sur l'issue des pourparlers. Là aussi, la grève pourrait commencer dès ce jeudi et toucher les usagers.
Voilà pour ces nouveaux conflits menés là encore en intersyndical. La CSCP est secondée par Oeto, Erima, Otahi et la CSTP et FO. Le même attelage que dans le commerce où les négociations n'ont toujours pas repris. Après la rencontre de lundi, la mobilisation est toutefois sporadique dans ce secteur.
Et du côté de la flottille administrative, voilà une semaine que les marins sont en grève.
Le syndicat des gens de mer a arrêté le travail jeudi dernier et depuis une cinquantaine de personnes sont mobilisées. Le chef de file du syndicat affilié à Otahi, Sylvain Kuhumuitini, regrette l'absence d'échanges avec les autorités. Ils n'ont aucune nouvelle sur leurs revendications salariales, indemnitaires et d'effectifs.
Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de rencontre, hein, à part le premier jour. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien eu. Nos bateaux restent toujours à quai. Ce que nous, on craint, c'est que, bon, au lieu de résoudre le problème ici, le pays, on va trouver les solutions ailleurs pour envoyer des navires dans les îles. Mais sans solutionner le vrai problème, notre problème. C'est sûr qu'à notre niveau, si le problème ne sera pas résolu, nous, on ne fera pas Makatea. Donc, en parallèle, peut-être, eux, à leur niveau, ils vont trouver des navires des sociétés privées.
Le Tahiti Nui était censé partir pour l'île haute des Tuamotu le 13 septembre avec participants, encadrants et matériel pour la 4e édition du festival Makatea Vertical Adventure. Cet événement majeur de sport outdoor devait rassembler près de 500 personnes, mais sans bateau, pas de festival. Le président de Makatea Escalade, Heitapu Mei, nous disait ne pas avoir de plan B. Et si le mouvement continue, d'autres missions pourraient être perturbées, comme le ravitaillement mensuel de Mopiti, la avec Inuiva ou encore le festival des Marquises à Wahuka.
À 7h05 dans le journal de Radio 1 et Thierry FM, on va parler sécurité, Lucie, avec le nouveau commandant de la gendarmerie qui était à notre antenne hier.
Ne pas relâcher la pression sur les délinquants, mieux accompagner les victimes et renforcer les partenariats entre institutions. Voilà la ligne du colonel Stéphane Brunet. Le nouveau commandant de la gendarmerie était dans notre studio hier. Il a fait le point sur la lutte contre les violences intrafamiliales, l'insécurité routière, qui doit avant tout passer par la responsabilisation personnelle et bien sûr la lutte contre les stupéfiants. D'ailleurs, il a dit que la répression était au niveau. L'ICE sera sûrement au cœur de l'actualité ce week-end avec cette grande mobilisation qui se prépare à Papeete pour samedi. L'interview du colonel est à retrouver sur notre site radio1.pf et nos pages Facebook.
Dans le volet économie à présent, on parle de ce chiffre, 78,5 milliards de francs.
C'est le montant des prêts accordés par les banques locales au deuxième trimestre 2025. Un bond de 30% de la production de crédit par rapport à la même période l'année dernière. Selon l'IOM, ce sont les projets d'entreprise, notamment ceux de l'hôtellerie, qui ont permis cette envolée. Mais les emprunts des particuliers, notamment pour financer des projets immobiliers, ont aussi bondi. Le résultat de l'accalmie des taux d'intérêt.
Et puis les rencontres de la fonction publique se sont terminées hier.
Beaucoup de conférences et de tables rondes. Il s'agissait de trouver de nouveaux modèles de gestion et d'organisation publique, de mettre en place la déconcentration administrative. On a aussi parlé de la logique de performance, du virage numérique, de l'évolution des cadres d'emploi. Mais justement, qu'en est-il de la fonction publique hospitalière ? La ministre du Travail, Vanina Krolla, veut d'abord une réforme générale.
Nous, ce qu'on voudrait, c'est d'abord poser un cadre commun à la fonction publique, avec ensuite des spécificités liées à certains métiers particuliers comme les professionnels de la santé. Pour l'instant, il y a déjà des discussions entre le ministère de la Santé et certains syndicats. On va commencer par le statut des praticiens hospitaliers. Aujourd'hui, ils doivent nous transmettre le projet pour qu'on puisse nous étudier tout en anticipant la réforme des cadres d'emploi. Avant, éventuellement, avec la mise en place des établissements publics de santé, sortir la filière santé de la fonction publique générale et en faire une fonction publique spécifique.
Voilà, la réflexion a donc commencé sur la fonction publique hospitalière. La ministre est aussi mitigée sur le concept d'établissement public de santé défendu par Cédric Mercadal. On est allé voir ce qui se fait en France, dans les départements d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, mais pour la ministre, d'autres pays dans le monde pourraient être une source d'inspiration.
On veut leur demander de sortir un peu de ce cadre habituel, même si c'est vrai que nos enfants eux-mêmes vont également faire leurs études en France. Donc il y a un travail également au niveau du ministère de l'Éducation pour orienter vers la Nouvelle-Zélande, Fidji, vers d'autres pays. Maintenant, il y a une mise à plat de l'ensemble des statuts qui existent de par le monde et on va essayer, en s'inspirant des réussites, mais aussi dans le cas des échecs.
Voilà, les rencontres de la fonction publique se sont donc terminées hier. Les conclusions et les propositions qui seront présentées doivent servir à un plan d'action mis en œuvre à partir de janvier prochain, promet la ministre.
Et puis c'est à l'hôpital aussi où on réfléchit pour faire évoluer les métiers, notamment celui d'auxiliaire de santé.
Oui, près de 70 agents répartis dans plus de 40 îles isolées de Polynésie. Ils assurent des soins de base et servent de relais pour les autorités de santé. Alors qu'ils ont une formation limitée et un statut de catégorie D, et cet événement, les journées des auxiliaires de santé veut justement valoriser et moderniser cette profession. On écoute le maire délégué d'Amanou et aussi auxiliaire de santé de Lille, François Takamoana.
Nous sommes dans l'attente en fait de valoriser notre statut parce qu'en tant qu'auxiliaire de santé de catégorie D, nous n'avons pas le droit de faire toutes ces choses que nous faisons aujourd'hui dans les Tuamotu, dans une poste isolée. Je prends l'exemple, nous devons faire les vaccinations de CPI, nous devons aussi piquer au niveau des assurances et surtout suivre les patients en fin de vie. Et ça, c'est pas notre métier de base.
Ce métier d'auxiliaire de santé a été créé en 1988. Ils étaient alors les relais dans les quartiers, les îles, les zones rurales. Mais aujourd'hui, ils font les premiers soins du conseil, échangent avec les autorités et les soignants à distance et sont même des opérateurs des outils de télémédecine. Pour le docteur Philippe Biarritz, il est temps de moderniser leur statut.
Également, donc, ils ont un statut mais qui est complètement dépassé puisque c'est un statut qui est assimilé aux femmes de ménage, aux agents d'entretien. Et donc, c'est toutes ces choses qu'il faut changer. Donc, on les remercie, mais en même temps, on sollicite les institutions et les autorités pour que ça puisse évoluer et probablement inventer un nouveau métier qui est un métier d'agent de santé correspondant de la télémédecine. On espère que d'ici un an, il y ait un nouveau métier, un nouveau statut et une formation.
Voilà, un nouveau métier qui pourrait aussi attirer des jeunes car ils sont peu nombreux à vouloir faire cette activité alors qu'il y a des besoins.
Et à 7h10 dans ce journal, on termine, Lucie, avec cette bonne nouvelle pour le spécialiste tahitien du saut en longueur.
Oui, Rei Hau Maiahu, qui avait été champion de France en 2017 et il est toujours dans le circuit, plutôt en forme. Il vient d'annoncer être sélectionné pour les championnats du monde d'athlétisme de Tokyo. Ce sera du 13 au 21 septembre. Quand on regarde le planning des championnats du monde, les qualifications pour le saut en longueur chez les hommes sont prévues le 15 septembre et la finale le 17. C'est sa première participation à une compétition de ce niveau. Ça fait longtemps qu'il attendait ça. Et ça y est, et nous y sommes enfin, a-t-il dit. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 7h30 pour la revue de presse.
Merci beaucoup, Lucie. À tout à l'heure.